Dans le sens strict du terme, jeûner, c'est ne rien manger, ne rien boire sauf de l'eau, du thé, des tisanes ou du café sans sucre, éventuellement un bouillon de légumes pendant une période déterminée. Tout écart, y compris un quartier de pomme, aliment pourtant ô combien sain, suffit à rompre le jeûne. Cette règle de base n'est pas négociable. Le jeûne prolongé, quand il est conduit sous surveillance médicale et pour une durée limitée, a des effets bénéfiques. Toutefois, des recherches menées aussi bien sur des animaux que sur des humains ont démontré qu'il est possible de mimer ces effets en usant d'astuces dont la plus connue, sans doute la moins contraignante, est le jeûne intermittent sous ses différents modèles qui permettent de jeûner en mangeant. Nous sommes tous des pratiquants du jeûne intermittent, ne serait-ce que la nuit quand nous dormons et que nous accordons quelques heures de repos bien méritées à notre métabolisme. Pour que les effets du jeûne se fassent ressentir dans notre organisme, il suffit qu'il dépasse 12 heures. Notre production de corps cétonique commence alors à se mettre en route. Ce n'est pas si compliqué. Pour ceux qui prennent leur petit déjeuner à 7h ou 7h30, il suffit de dîner à l'heure de l'Europe du Nord, c'est-à-dire avoir fini de manger à 19h. Et pour ceux dont le petit déjeuner est plus tardif, l'horaire du dîner peut être retardé d'autant, à une seule condition, on ne mange pas juste avant de dormir, sous peine de mal dormir, un laps de 2 heures étant recommandé entre la dernière bouchée et le moment de se coucher. Évidemment, on s'abstient de grignoter en soirée, sauf exceptions qui doivent rester des exceptions. Plus la période de jeûne intermittent est prolongée, 14h, 16h, voire 18h ou 24h, plus la production de corps cétoniques augmente et, avec elle, les effets bénéfiques de l'abstinence d'alimentation. Mais, comme pour tout entraînement, il vaut mieux y aller pas à pas. Option 1, option 2. En tant qu'hépatologue et gastro-entérologue, les patients que je reçois sont généralement malades, à des stades plus ou moins avancés de leur maladie. En tant que nutritionniste, je reçois aussi des patients qui ne vont pas forcément mal, mais qui voudraient d'une part aller mieux, généralement en perdant du poids, d'autre part, continuer à aller bien sur le long terme. Je ne m'adresse pas à tous de la même façon. Un malade a besoin d'être soigné. Dans ma discipline, notamment en ce qui concerne le foie, la majorité des maladies, le foie gras et ses conséquences, la cirrhose, se soignent en priorité par l'alimentation, c'est-à-dire par un retour à une manière de manger plus saine, moins calorique, mieux encadrée. Il en va bien sûr de même quand j'enfile ma casquette de nutritionniste. Dans tous les cas, je prône une médecine individualisée, c'est-à-dire un traitement adapté à la personne qui est en face de moi, tenant compte de ses contraintes, de son mode de vie, de ses activités, etc. Les régimes stéréotypés et déconnectés ne fonctionnent pas sur le moyen ni sur le long terme. On finit par craquer. Le jeûne intermittent est l'un des outils que je propose, sous ses différentes formes, et avec deux grandes options que je reprendrai prochainement. L'option 1. Elle s'adresse aux personnes en bonne santé, qui ne souffrent ni de diabète, ni d'hypertension artérielle, ni de maladie du foie, dont les bilans sanguins sont proches de la normale, mais qui ont tout intérêt à pratiquer une forme de jeûne pour perdre quelques kilos en trop, se protéger et vivre plus longtemps avec leur bonne santé. L'option 2. Elle concerne celles et ceux qui entrent dans la maladie, même si celle-ci n'est pas grave, qui n'ont pas de symptômes, mais dont les analyses révèlent des taux de glycémie et de cholestérol ascendant, un foie un peu gras. Ces éléments sont réversibles, à condition de faire attention et pour cela, soit d'observer une restriction calorique stricte, soit un jeûne intermittent dont les règles ne sont pas forcément difficiles, mais qui implique de changer des habitudes. Faute de quoi, elle et il risquent d'aller plus loin dans la maladie. Même quand on est en bonne santé, l'option 2 mérite d'être parfois activée pendant 2 ou 3 semaines, histoire de se débarrasser des quelques kilos qui se sont invités pendant une période de relâchement à la sortie de l'hiver ou après les fêtes de fin d'année. Le jeûne intermittent, mode d'emploi. Sous ces différentes méthodes, le jeûne intermittent peut être poursuivi sur le long terme, pendant des semaines ou des années, à une condition, veiller à l'apport régulier de lipides, de glucides et de protéines pour ne pas créer de carences, voire une dénutrition néfaste pour l'organisme. Quand on n'en a pas l'habitude, la cétogénèse, la production de corps cétoniques, procure parfois des maux de tête ou de ventre pendant les premiers jours. Dans ces cas, je conseille de beaucoup boire, d'adopter un régime riche en légumes, fruits, fibres et céréales complètes avec au moins 50 grammes de protéines par jour. Au bout d'une semaine ou 10 jours, ces symptômes s'effacent. Il existe plusieurs méthodes de jeûne intermittent qui se déclinent chacune avec différentes variations. La méthode 5-2 consiste à jeûner pendant 24 heures, 2 jours non consécutifs par semaine, et à manger normalement, ce qui signifie pas n'importe comment les 5 autres jours. Elle s'applique à des personnes comme moi qui tiennent à dîner en famille ou à celles qui ont souvent des dîners à l'extérieur. Elle est moins intéressante pour celles et ceux qui quittent leur travail plus tôt ou peuvent organiser leur dernier repas vers 16h ou 17h et seraient plus à l'aise avec la méthode 16-8. Le jeûne de 24 heures peut, par ailleurs, ne pas être total. Une étude a été menée par une équipe de l'Université de Karolinska à Stockholm sur 74 personnes ayant une atteinte hépatique liée au surpoids. Elles ont été réparties en 3 groupes. Le groupe 1 a été soumis à une alimentation se rapprochant du régime cétogène, avec peu de sucre et beaucoup de gras. Le groupe 2 a bénéficié des conseils diététiques habituels dans leur cas. Le groupe 3 a suivi une méthode 5-2 allégée. Pendant les 2 jours hebdomadaires du jeûne, les femmes pouvaient absorber 500 calories et les hommes 600 calories, ce qui n'est pas négligeable. Au bout de 12 semaines, la méthode 5-2 allégée s'est révélée plus efficace sur les paramètres du foie, notamment sur sa dureté qui marque l'évolution vers une fibrose ou une cirrhose. Or, on sait bien que lorsque l'état du foie s'améliore, plusieurs autres paramètres du métabolisme s'améliorent également. La méthode 16-8. Comme son nom l'indique, elle consiste à jeûner pendant 16 heures et à s'accorder une fenêtre de 8 heures pendant laquelle on peut manger. Les corps cétoniques sont produits à partir de 12 heures de jeûne. Puis, leur quantité augmente au fil des heures et avec elle, les quantités de sucre et de gras que nous puisons dans nos réserves, tandis que notre production d'insuline diminue. Jeûner 14 heures est déjà très bien. Jeûner 16 heures l'est encore mieux et avec l'entraînement, on peut arriver à étendre la période de jeûne, ne serait-ce que de temps en temps à 18 heures. La méthode 16-8 implique de sauter un repas. Mais lequel ? Pour faire au mieux, c'est le matin qu'il faut manger. En option 2, je conseille vivement de respecter le biorhythme et de s'abstenir de dîner ou de dîner hyper léger de légumes exclusivement. Votre métabolisme, qu'il s'agisse de l'hypertension artérielle ou de la résistance à l'insuline, vous dira merci. Les personnes sous traitement pour hypertension ou pour un diabète de type 2 sont d'ailleurs invitées à surveiller l'évolution de leur maladie. Il n'est pas rare que, grâce au jeûne, les médicaments cessent de leur être nécessaires ou qu'il faille en diminuer les doses. Les études confirment cependant que, quel que soit le repas sauté, qu'il s'agisse du dîner ou du petit déjeuner, les résultats sont quasi identiques en ce qui concerne la perte de poids. One meal a day. Les études sur les souris démontrent l'efficacité redoutable de cette méthode à la mode qui consiste à ne manger qu'un seul repas par jour. En l'appliquant à ces souris et en respectant le biorhythme de ces dernières inversé par rapport à celui des humains, des chercheurs de l'Université de Wisconsin ont réussi à augmenter leur espérance de vie en bonne santé de près d'un tiers. Mais nous ne sommes pas les souris, et ce n'est pas un régime que je conseille à tout le monde. Car cette méthode comporte 2 écueils que je constate chez mes patients. Le premier est celui des carences quand on ne s'alimente pas suffisamment ni suffisamment bien au cours de cet unique repas de la journée. Le second est, à l'inverse, celui de la tendance à compenser les 23 heures de jeûne par un repas trop riche et déséquilibré, entraînant par contre-coup un surcroît d'inflammation. Enfin, pour qu'elle montre toute son efficacité, comme chez les souris, cette méthode implique que le repas quotidien soit pris au petit déjeuner, ce qui risque de perturber fortement la vie sociale et familiale de ceux qui s'y engagent. Quelle méthode adopter ? J'ai une règle en la matière. Ce qui vous convient le mieux, à vous, selon votre mode de vie, vos habitudes. J'apprends d'ailleurs à mes patients à jongler, selon leurs contraintes, entre les différentes méthodes. Vous avez opté pour le 16-8 en sautant le dîner, mais vous avez quand même dîné. Un dîner léger, une fois de temps en temps, n'est pas grave. Même un dîner très riche et très arrosé est rattrapable.